Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Voici l'histoire d'une famille, une saga qui s'inscrit dans l'histoire, notre histoire. Ce roman qui témoigne d'une époque où les classes sociales étaient extrêmement cloisonnées, brosse le tableau d'une famille de hobereaux, ses valeurs, ses traditions, ses bonheurs et ses drames, et l'évolution inéluctable des coutumes et des mœurs. Cette présentation serait incomplète si je ne disais combien grande est la précision tant des faits historiques que des détails de la vie quotidienne, des lieux, des usages, des outils. Ce roman, édité par Calman Lévy, s'intitule « Même les pierres ont une histoire » et je suis heureuse d'accueillir son auteur, Georges Patrick Glaise. Georges Patrick Glaise, bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors je peux vous présenter, si vous le permettez, à vos auditeurs, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vous connaissent. Vous êtes de notre région déjà, mais vous êtes né à Paris en février. Bon, on ne va pas dire bon, la date, en fait, vous êtes jeune. Hein. Vous êtes originaire d'une vieille famille ariégeoise, des études secondaires classiques au lycée Pierre de Formna, bien connu à Toulouse, bien entendu, suivi d'études supérieures de lettres et d'histoire à l'université de Toulouse de Mireille. Tout cela conclut par l'obtention d'un DEA d'histoire méridionale, donc agrégé d'histoire, spécialiste des sociétés rurales du sud de la France. Vous allez enseigner successivement au lycée d'Aiguillon en Lot-et-Garonne, à Dunkerque, vous êtes exilé à Dunkerque, puis au lycée Jean Favard à Guéret en Creuse. Et vous revenez ensuite vous installer en Ariège en 91. En ce qui concerne l'écriture, après des publications professionnelles sur le tourisme vert et une biographie de Charles de Gaulle, soldat, vous vous êtes consacré au roman. Ai-je bien compté, 19e roman, Georges Patrick ?
Oui, c'est le 19e roman, je crois, quelque chose comme ça.
Ce que j'ai compté là, c'était 19, mais peut-être qu'il y en a qui sont dans vos tiroirs.
Le 19e est en cours, oui.
Voilà, et en décembre 2009, vous avez été élu à l'Académie des Arts, Lettres et Sciences du Languedoc. Voilà, j'ai dû oublier plein de choses, mais on va pas rester des heures, là. Alors, donc, vous avez écrit « Même les pierres ont une histoire » et effectivement, votre roman se situe dans un manoir, on peut le dire. Et ce roman s'ouvre, c'est un régisseur qui nous en ouvre les portes au début des années 60. Et je pense que c'était la bonne personne pour nous faire entrer dans ce roman.
Oui, en effet, je rentre dans le roman par le domestique, disons, mais le régisseur. Et lui, le régisseur, c'est un peu la mémoire de ces pierres. Le regard et la mémoire, mais c'est une mémoire populaire. Ce n'est pas la mémoire des patrons, ce n'est pas la mémoire des hobereaux. C'est une mémoire plus populaire. Mais
un regard extérieur.
Le regard extérieur, mais il a tout vu, il a tout compris. Et il participe également à la vie de tous ces gens-là. Alors le roman lui-même part de 1904 à peu près, jusqu'aux années 60, et il décrit les changements qui se sont produits dans toute cette famille, toute l'évolution historique, sociologique,
voilà,
humaine.
Voilà, exactement, on va en parler. Alors lui est régisseur donc de ce domaine de Terrefort dans l'Ariège et qui appartient à la famille Saint-Geniès. Et on parle de l'ascension sociale, même de cet homme, et des changements, effectivement, ce que vous venez de dire. Et alors, ce que j'ai remarqué déjà, c'est que chez cet homme, il n'y a aucun ressentiment, aucune jalousie, aucun agacement. Non, il y a...
Non, il n'y a pas de jalousie chez lui. Non. Il a envie de réussir. Il est d'origine espagnole. Il vient de sa famille d'Extrémadour. Ils étaient très pauvres. Et il a compris qu'il a eu la chance, en venant en France, en fin de compte, de réussir petitement sa vie, mais de réussir. Et donc, il en est conscient et il en est respectueux. Et donc, par rapport à ses patrons, en fin de compte, à ses hobereaux, il n'y a pas de haine de classe, en fin de compte. Il n'a pas cette haine de classe. Il a au contraire envie de faire un peu comme eux, de réussir. Et d'ailleurs, par exemple, dans son salon, il a acheté en salle des ventes un piano,
ah oui,
parce qu'un piano, ça fait bien.
Oui,
et même
oui,
si c'est
oui.
pas en jouer lui-même, ça fait
oui,
rien, il a le piano
oui,
quand même.
Oui, oui.
Voilà.
Oui, il n'a pas de jalousie mesquine,
non.
Il a envie de gravir, et finalement, il a une bonne réussite professionnelle.
Oui, il finit par être presque aussi riche que ses patrons, en fin
oui,
de compte.
Tout donc, à fait, parce qu'il a bien géré, on ne racontera pas jusqu'à la fin de l'histoire, évidemment, mais il a bien géré ce domaine. Mais lui-même a pu monter un élevage.
Oui, tout à fait. Il a pu monter une propriété. Il est propriétaire de 40 hectares. Il a 200 mètres à cornes. Donc, il y a une sorte de réussite sociale qui est le fruit de son travail. Et c'est son intégration, en fin de compte, à la société des années 60. Ouais.
Alors, témoin idéal. Et d'emblée, vous nous mettez en appétit parce qu'il y a un mystère sous-jacent dans l'histoire. Ça commence comme ça, lié à un fils de la famille, peut-être un mouton noir, une histoire louche, mais elle ne s'éclairera qu'à la fin du roman. Et je peux dire aux auditeurs que nous n'en parlerons pas.
Alors ce fils de famille, en effet, c'est un fils qui a disparu, qui est un peu fils maudit.
Eh oui, mais dès le départ, hein, vous ne l'avez pas aimé, ce garçon.
Il est un peu curieux, mais il incarne bien toutes les turpitudes, en fin de compte, de l'entre-deux-guerres et toutes les ambiguïtés qu'il y a eu dans ces difficultés.
Tout changer.
Pour changer, oui. Et donc, il est un peu la face noire de Thaïlande et la face claire, en quelque sorte.
Oui, bon, hein. C'est vrai, vous voyez, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que il y a un tel changement dans les mœurs, dans les coutumes, qu'effectivement, il en est peut-être la victime d'une certaine manière.
Il en est la victime. Oui. Bon. Et il va payer d'ailleurs son évolution. Et sa vie est aussi une rédemption.
Oui. Voilà, on n'en dit pas plus. D'accord. Alors, on va voir d'ailleurs les serviteurs se succéder. Ce sont des témoins silencieux aussi. Donc eux aussi, déférents sans revendication. Mais ils ont... Entre eux, ils ont leur chouchou, je dirais.
Oui, oui, oui.
Il y a ceux qu'ils aiment bien, etc. Et on voit également les générations se succéder.
Oui, il y a trois générations qui se succèdent. La génération, disons, de la fin du 19e, la génération de la guerre de 14, et puis la génération plus moderne, et les générations de l'ouvrier qui ne réagissent pas différemment, socialement parlant, par rapport aux liens qu'ils ont en relation avec leur domestique. Ce n'est pas du tout les mêmes. Oui. Les liens sociaux évoluent, comme la société change. Et ces gens-là, ils sont, au début, ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils sont assis sur leur fortune foncière, ils vivent de leur rente, quasiment. Il y a un petit travail à côté, mais c'est la terre qui rapporte, et puis la terre rapporte de moins en moins, et donc il faut trouver autre chose. Et puis il y a la guerre qui vient, et puis il y a les changements qu'elle implique, les drames qu'elle amène, et finalement, bon, ben, c'est toute une strate sociale qui est en train de disparaître petit
à
petit.
On voit déjà de légères failles. Bon, alors, les mariages sont toujours arrangés, mais on verra que vers la fin, ils ne le sont plus, cause. Et puis, les fortunes sont sacrément écornées.
Les fortunes s'écornent terriblement.
Oui.
Et c'est aussi une sorte d'une dégringolade, en quelque sorte,
sociale.
Un effritement de la notion de dominance qu'il y a.
Oui. Alors que vous liez à quoi ? À la guerre, il n'y a pas seulement la guerre.
Il y a la guerre, il y a la modernité. La modernité.
Oui. L'industrie.
Il y a les changements de paradigme économique qui font que la fortune foncière n'est plus ce qui fait la notabilité. Ce qui fait la notabilité désormais, c'est l'industrie, c'est le commerce, etc. C'est tout ça. C'est tout le basculement qu'il y a entre la fin du 19e et puis les 50. Bon,
oui.
L'accélération du temps avec la vitesse.
Oui, c'est ça.
C'est tout ça qui change.
Alors, il y a, je dirais, la reine-mère, la Joséphine, c'est la châtelaine. Elle maintient, ça c'était le rôle des femmes, elle maintient les traditions.
Tout à fait. Elle est gardienne de la maison et même si ça lui coûte des fois, à l'image de la robe qu'elle porte, qui est corsetée de partout, et son plus grand plaisir, c'est le soir quand elle peut défaire son corset.
Oui.
Parce qu'elle souffre, mais elle maintient.
Et elle maintient et elle perpétue chez sa belle-fille.
Sa belle-fille, exactement.
Alors, malheureusement pour elle, elle n'a qu'un seul enfant et on voit Charles arrivé. C'est le seul héritier, ce qui facilite les choses. Et donc, on va aller faire des incursions au Kaouzou, qui est un lycée privé qui est bien connu à Toulouse, un lycée, un établissement de jésuites. Et puis, il va faire des études d'avocat. Alors là aussi, on comprend que finalement, par exemple, le notariat, il ne peut pas avoir une étude notaire, c'est trop cher.
C'est trop cher.
Ils ne peuvent plus.
Avocat est à sa portée de la bourse, donc il va s'installer comme avocat au barreau de Toulouse.
Oui,
Et puis quand il est avocat, on cherche à le marier. Et donc là, il y a toute la manière dont on cherche un conjoint qui soit digne, mais pas une aventurière, bien sûr. Donc il faut que ce soit une femme de bonne famille.
Oui, alors oui, parce que Joséphine, elle est mariée à Jules. Hein. Bon, alors Jules, je ne sais pas, il a un emploi quand même, Jules.
Oui, il a un emploi, il est percepteur. Bon, il est
voilà.
Percepteur.
Oui, ouais. Mais enfin, percepteur à l'époque, ce n'était pas rien quand même. Hein.
Oui, bon, il a un petit emploi, un petit fonctionnaire, mais il, bon, lui, sa passion, c'est les chevaux, bon, comme oui. Très aristocratique, comme passion.
Oui, oui,
bon,
oui.
Et comme il est un peu rond, il ne peut plus monter à cheval, donc il navigue sur un petit burri. Mais
bon, il faut s'adapter.
Il faut s'adapter, exactement. Mais il a conservé cette espèce de branche, entre guillemets, liée à son sang. Bon, et son fils est élevé un peu pareil, dans le même ordre d'idée.
Oui,
donc
alors,
on va le marier avec une fille qui sera une fille, une jeune femme bien de la bonne société.
Oui, mais pas de la noblesse.
Pas de la noblesse.
Mais elle a du bien.
Elle a du bien, c'est essentiel, voilà.
Oui, alors lui, oui, parce qu'il est fier de l'honneur de son nom, c'est ce
oui,
qui est dit dans l'ouvrage. Il est baron. Voilà.
Alors, je n'ai pas dit s'il était baron d'Empire. Je n'ai pas dit baron d'Empire ou baron de vieille famille.
Voilà. Et donc, c'est un mariage, bien entendu, arrangé. Il faut tenir son rang. Donc, on ne doit pas épouser n'importe quelle personne. Et alors là, finalement, oui, on voit que les mariages, la plupart du temps, étaient arrangés. Et c'est assez drôle ce que vous racontez. Il y a des vieilles cousines, des amies lointaines qui se manifestent. Enfin, on fait savoir à la ronde qu'on veut marier son fils.
Oui, j'ai décrit dans le mariage celui de mes grands-parents.
Ah oui.
C'est exactement le mariage des grands-parents qui s'est produit, qui s'est passé. La même manière, les lieux sont exacts, puisque ma grand-mère est d'origine de l'Aude, et le personnage d'Honoré Bonnel, c'est mon arrière-grand-père, ni plus ni moins. D'ailleurs, le roman lui est dédié.
D'accord, oui, effectivement. Voyons, alors, à François Planque, mon arrière-grand-père, à Séverine Courdil, mon arrière-grand-mère, trop tôt disparue. Voilà, ben voilà, on
oui,
leur rend
ça.
Hommage.
Et là où le roman se passe, à Limoux, les lieux sont exacts et sont toujours aujourd'hui dans la famille.
D'accord.
Le couvent des Cordeliers.
Alors, donc, Irène, la promise. Est roturière, mais elle a une dot conséquente et des espérances. Ça veut dire qu'elle héritera, évidemment. Et alors, il y a des tractations financières, c'est assez drôle, parce que je vois, même si le marié était nettement moins fortuné que les Farjac, il n'en portait pas moins un titre qui conférait encore en ce début de siècle prestige et considération. Pour les Saint-Genest, il s'agissait de tenir son rang, rééquilibrant par leur attitude ce dont les revers de fortune les avaient privés. Voilà. Alors bon, donc, les choses vont se faire. Et alors, je remarque que finalement, ce que vous dites, et je crois que c'est le reflet de la réalité, c'est que ces mariages arrangés n'étaient pas si catastrophiques que ça.
Non, disons que c'est pas si catastrophique que ça, parce que les femmes, souvent, avaient les chines souples.
C'est-à-dire par elles là. Étaient soumises.
Elles étaient soumises.
Et
elles avaient beaucoup de couleuvres, les pauvres. Les pauvres, malheureusement. Bon, alors, il y avait des mariages heureux.
Oui.
Moi, je suis mes grands-parents, donc je me suis inspiré, a été très heureux. Mais d'autres étaient plutôt mal assortis. Bon, hein. Mais ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui de tout temps, hein, qui était intemporel. Hein. C'est vrai que les femmes, elles étaient obligées à l'époque de plier les chines parce qu'elles ne
oui.
travaillaient pas.
Oui, oui.
Donc, elles
n'avaient rien.
Elles étaient financièrement en état de tenue en laisse, littéralement.
Sûr, oui,
elle avait le droit de rien faire. Elle ne pouvait pas avoir de gestion de famille, de compte en banque, etc.
Ouais,
elle
ouais.
est totalement soumise. Donc,
oui.
il fallait bien en passer
Marquez
par les fourches crocodiles du mari.
Le compte en banque, il a été attendu pendant longtemps.
Pas hein. longtemps, c'est arrivé tard.
Oui, 1965. C'est arrivé tard grâce à De Gaulle.
Ah oui, à 1965 seulement,
oui,
c'est arrivé
oui,
très
oui.
tard.
Oui,
donc,
oui.
La position des femmes, c'était contrainte et forcée.
Ouais.
Bon,
ouais, ouais.
Bon, elle se rattrapait autrement. Il y avait d'autres moyens de
oui,
de
mais
faire.
Enfin...
Mais bon... Et puis le rapport entre les hommes et les femmes était très différent. Pensez par exemple qu'il était de manière assez courante pour les hommes de l'époque d'aller dans les maisons de tolérance.
Mmh.
Chose mmh. qui était aujourd'hui dans un couple, mais c'était accepté.
Oui, oui,
c'était
oui.
accepté.
Oui, oui, oui.
On tolérait. Parce que la femme était placée sur un tel pied de, d'estal que les relations entre le mari et la femme se limitaient uniquement à des éléments bien précis. Oui.
Et la femme était celle qui s'occupait de la maison et des enfants.
Voilà, les enfants, etc. Et donc, bon, que monsieur allait prendre un peu de plaisir ailleurs, ma foi, c'était pas acceptable, mais accepté, toléré, on fermait les yeux dessus.
Oui. Alors là, le grand bonheur des hommes, c'est soit le cheval, mais après, ça va être les voitures.
Les voitures.
Vous parlez d'une voiture que je n'avais, dont j'avais jamais entendu le nom, la Gladiator.
Gladiator. Nous en avions à la maison.
Ah bon?
J'étais dans notre voiture à la maison.
Je viendrai la voir, alors.
Ça j'ai, les photos. Devant les photos.
Voilà, alors, importance. Et alors, ce que j'ai appris, et encore une fois, je dis à nos auditeurs, souvent, il y a beaucoup d'indications, par exemple, que le permis ne date que de 1899, et encore, quel style de permis? Ça aussi, c'est assez drôle. C'est un permis, il suffit de savoir démarrer, se diriger, s'arrêter et d'avoir quelques notions de dépannage mécanique.
C'est tout. Et alors, encore plus drôle que je cite dedans, le fait que la voiture n'a pas de pot d'échappement. Et le pas de pot d'échappement, c'était considéré comme un luxe. Pourquoi ? Parce que ceux qui avaient un pot d'échappement, les animaux qui étaient sur les rues, dans les cours des fermes, etc., qui traversaient fréquemment la route, les cochons, les lapins, etc., les chiens, les chats, se faisaient régulièrement écraser, et c'était à la charge du conducteur que d'indemniser le paysan.
Oui.
Donc, le comble de la succès, c'était de ne pas avoir de pot d'échappement pour faire beaucoup de bruit, de manière à ce que les animaux, ainsi, fuient la voiture qui arrivait.
Mais il n'y avait pas de klaxon ?
C'était insuffisant.
D'accord.
Donc les voitures les plus belles n'avaient pas de pot d'échappement.
Oui. Et alors, on les voit partir, entre autres, donc, au mariage de Charles, à Limoux, et un voyage long, c'est une expédition. C'est parce
4 heures.
Oui, parce que les voitures allaient à quelle vitesse ?
À peu près 20-30 km/h.
Oui. Et des insectes. Et ça m'a fait rire, parce que tout d'un coup, j'ai réalisé qu'on n'avait plus d'insectes sur les pare-brises.
Oui, bien sûr. Oui.
Oui.
Et les crevaisons, ils sont contents.
Ah oui, alors là,
ils n'ont crevé qu'une fois.
Alors les crevaisons, bon, tant mieux, hein, ça veut dire que bon, c'est vrai qu'il n'y a plus de chevaux sur la route, mais les insectes, c'est quand même inquiétant.
Il y en a beaucoup moins, oui.
Beaucoup moins.
C'est la démoustication.
Oui. Alors, entre autres, vous parlez, nous sommes dans l'Aude, là, et on comprend qu'il règne et quand même une certaine nostalgie, parce qu'il y a le climat, malgré tout, bien sûr, la chaleur. Mais vous parlez de vent marin. Le marin, je connais, mais le cerf, par exemple, connaissais pas.
C'est un vent qui souffle dans l'Aude, c'est la tramontane.
Hein. C'est la tramontane,
c'est
l'équivalent. Mais là aussi, on parlait de langues tellement diverses dans nos régions, mais même les noms de vent sont divers.
Oui, oui.
Vous parlez aussi des tourdes, je ne connais pas.
Oui, les...
C'est un oiseau.
Oui, les tourdes, c'est une sorte de grive. C'est une forme de grive. C'est une grive qui est un peu plus foncée que les autres et qui est partie comme la musicienne ou que la movie.
Voilà. Alors bon, on apprend aussi, entre autres, que la blanquette de Limoux a été inventée en 1540, avant le champagne.
Parfaitement.
Et on parle... Vous parlez de l'arrivée en tant que président du conseil d'Émile Combes. Alors là, ça fait du bruit dans les ménages.
Oui, ça fait beaucoup de bruit dans les ménages, en effet.
Oui, ça c'est l'époque où il y avait un dessinateur humoristique qui était excellent.
Carandache,
oui. Ils en ont parlé et puis ils n'en parleront pas et puis ils en ont parlé.
C'est le dessinateur qui a beaucoup crayonné sur l'affaire Dreyfus, notamment.
Oui, exactement.
Et qui a fait des scènes humoristiques, un peu comme Plantu aujourd'hui, en fin de compte. C'est un peu le même genre de dessin caustique. Hein.
Oui, oui. Alors donc, les voilà, Charles et Irène, les voilà mariés. Irène est charmante, mais gâtée. Ses parents vivent dans une grande aisance. Et on sent qu'elle se trouve isolée dans cette demeure en pleine campagne. Elle n'est plus en ville. Elle est oisive et pour cause. Et même, alors ça, je me suis dit, mais ça, c'est incroyable. Elle abandonne ses enfants à des nourrices.
Oui, ça se faisait régulièrement.
Ça
se faisait régulièrement. On pensait que pour l'enfant, c'était mieux d'avoir une nourrice, parce que souvent, la femme n'avait pas d'abord de lait. Et puis, c'était mieux. Ça lui permettait de mener sa vie sociale, de conserver sa vie sociale. Donc, c'était dans l'usage du temps, chez les familles aisées, bien sûr.
Oui. Alors
avoir une bonne nourrice, c'est un gage de réussite dans la vie.
Alors, Son bonheur, c'est son mari qui lui offre un gramophone. Et elle écoute, entre autres, j'ai trouvé, la méditation de Thaïs,
oui.
Voilà, de Massenet, qu'elle
oui.
écoute avec bonheur.
Oui.
Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons en écouter un extrait.
Bien sûr.
Thank you.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, nous reprenons notre entretien avec Georges-Patrick Glaize, qui a écrit « Même les pierres ont une histoire », c'est un roman édité par Calman Lévy. « Même les pierres ont une histoire », et en particulier ce beau domaine que fait vivre Georges-Patrick Glaize, et qui s'intitule « Terre fort », dans lequel donc Irène, la nouvelle belle-fille, va s'installer et va s'ennuyer. Elle va être sous le joug de la belle-mère. Alors là, toutes les femmes vont comprendre. Une belle-mère qui est toute puissante.
C'est difficile comme situation. Elles habitent la même maison. Il y a c'est pas le même logement, mais c'est la même maison. Donc l'une est sous le regard de l'autre.
Oui.
Et c'est donc délicat.
L'autre qui a l'autorité.
Oui, c'est autorité. Donc elle est tenue vraiment en laisse dans les doubles sens. Même quand son mari n'est pas là, le regard de la belle-mère la remet à sa place.
Et alors, cette belle-mère, donc Joséphine, elle est autoritaire et bourrée de préjugés. Alors bon, elle parle des parpaillots. Alors ça, c'est très drôle. À un moment donné, sa belle-fille va mettre un fils, je crois, dans une rue où il y a beaucoup, dans un quartier où il y a beaucoup de protestants. Hein? Oui. Alors elle s'inquiète. Elle s'inquiète aussi de voir son fils ne pas établir une certaine distance avec un métayer, je crois. Elle dit il faut une certaine distance avec les domestiques. Pourquoi il l'embrasserait? Or, on sait que la guerre a rapproché déjà
la fraternité des tranchées.
Mais voilà. Elle a une phrase que je trouve excellente. Elle dit à sa belle-fille qu'elle trouve mauvaise éducatrice, dirons-nous. Elle dit le laxisme est l'antichambre du vice. Rien que ça. Voilà. Les pieds nickelés, moi qui m'a bien fait rire à un moment donné, ces ignobles personnages de ce torchon. Bon. Et puis quant à Jaurès, ce partageur. Moi j'ai tout noté.
Oui, mais c'est tout à fait. J'employais les mots qui conviennent pour ces gens-là en me mettant à leur place en tant qu'historien. C'est vrai que sur les protestants, par exemple, le regard des catholiques sur les protestants n'était pas du tout le même que ce qu'on a aujourd'hui. Pensez que ma mère me racontait que dans les années 30, 35, 40, ma grand-mère la faisait changer de trottoir pour ne pas passer devant le temple.
C'est incroyable. Oui, c'est incroyable.
Catholique, oui. Pas forcément catholique, pratiquant, oui. Pas catholique traditionnel, oui. Mais les parpaillots, les protestants, c'était Belzébuth. On les voyait comme ça.
Oui, oui.
Et
oui.
Le regard a beaucoup changé, c'est
bien
évident.
Bien sûr. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que les femmes, finalement, elles restent dans leur cercle très, très fermé. Et dans le fond, ce qui est dommage aussi, on se rend compte que Irène, qui est une femme certainement intelligente, mais elle n'est informée de rien et elle ne s'intéresse pas à la politique. Alors, si vous permettez, je lis un extrait.
Bien sûr.
Au printemps 1906, ses enfants retrouvés, parce que l'été, ils reviennent, Irène était désormais comblée d'un bonheur paisible. Ce n'étaient pas les traditionnelles discussions le dimanche autour de la table familiale entre Charles et son père, à l'heure du café et de l'ouverture musicale de la boîte à cigares, un automate rapporté de l'exposition universelle de 1900, qui allait la troubler ou la passionner. Ni la tenue de la conférence internationale d'Algérie pour régler l'épineuse question marocaine, ni les péripéties de la vie parlementaire parisienne, ni les piques joutes oratoires à la tribune de l'Assemblée nationale entre Georges Clemenceau et Jean Jaurès, ne retenaient son attention de petite provinciale ignorante de questions de la politique. Sans être une ravissante idiote, Irène éprouvait aussi peu d'intérêt pour ces sujets qui polarisaient les passions humaines que pour les matchs de football, associations, les courses de chevaux ou les deuxièmes Jeux olympiques d'Athènes marqués par un regain de popularité. Que lui importait ainsi qu'en juillet 1906, le capitaine Dreyfus eût été réhabilité au grand dam du poète François Copé? Tout juste avait-elle prêté attention à l'ouverture du congrès de la CGT à Amiens en octobre 1906, car le sujet, l'indépendance des syndicats ouvriers à l'égard des partis politiques, avait suscité une discussion électrique entre Charles et son père. Autant dire que le combat des militants de la Women's Social and Political Union, une organisation créée en 1903 pour revendiquer le droit de vote pour les femmes au Royaume-Uni, n'entrait guère dans le champ de ses préoccupations. La jeune femme avait mieux à faire. En cet automne 1907, n'avait-elle pas désormais la charge pleine et entière de ses deux enfants, comme son mari le souhaitait ?
Oui.
Elle entre dans le moule.
Elle entre dans le moule, bien sûr. La femme est hors du champ politique complet. Et je vous donne un exemple, par exemple. En 1946, quand ma grand-mère a voté, ma grand-mère était fille d'un fonctionnaire des finances, eh bien, c'est son mari qui lui a mis le bulletin dans l'enveloppe. Elle était complètement hors de la politique. Et elle est tout à fait dans la ligne de ces femmes-là,
oui,
de l'époque.
Oui, 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 oui.
Vous voyez, c'est l'ère du temps. Hein. Bon, un temps qui n'est plus le nôtre aujourd'hui, oui, et qui a beaucoup changé.
Et oui, et alors on se dit, en voyant les discussions des parents, les commentaires des parents, des beaux-parents, on se dit que c'était là déjà, ils appartenaient à une race en voie d'extinction.
Oui, tout à fait. C'est une race en voie d'extinction qui a disparu aujourd'hui complètement. C'est la race des hobereaux.
Oui.
Les hobereaux, voilà. C'est-à-dire ce sont des petites notables qui sont attachées en fin de compte à leur terre comme une moule à son rocher, hein, un peu pareil.
Et qui tiennent à leur tradition et à leur prestige.
Et ils sont bloqués, ils sont rivetés, oui, dessus, et ils sont figés et ils sont dépassés. Et le temps passe et le, oui, temps leur passe dessus. Oui. Et eux, ils vont rester comme des fantômes du temps, oui, passé.
Alors, le 2 août 1914, c'est la guerre. Et là, évidemment, il y avait cette revanche à prendre. Pour reprendre l'Alsace et la Lorraine après la 1870. Donc tout le monde parle à fleur au fusil, quasiment, on le disait, hein, avec une vision optimiste de la guerre. Oui. Jules dit, oh, mais ce sera une promenade de santé.
Oui, c'est...
Voilà,
c'est,
et là, on va voir que la promenade de santé... Il y a des lettres très émouvantes que vous avez écrites. Ce sont les lettres de leur fils, Charles, qui écrit à son épouse et qui montrent que la déconvenue est terrible, terrible.
Oui, me suis inspiré de lettres réelles. Hein. Bon,
oui, j'imagine, il y a beaucoup de... Ici, au Mirail, il y a un professeur, je ne retrouverai pas le nom, qui est venu plusieurs fois à la radio, qui s'est spécialisé justement dans la guerre 14-18, que vous connaissez peut-être.
Oui, je le connais, oui.
Oui, probablement. Oui. Voilà. Ce qu'on lit aussi, donc ces horreurs, évidemment... Le mélange des classes qui est en train de s'opérer et d'autres liens se créent, justement.
Tout le monde change. Le 19e se termine en 1914, c'est vrai. La femme trouve, dans la guerre de 14, une utilité sociale parce qu'elle, oui, prend le relais des hommes.
Absolument.
Et,
absolument.
Et elle devient, en l'absence des hommes, chef de famille complet.
Et d'ailleurs, elle sait bien le dire à Charles.
Et quand l'homme va revenir en 1918-19,
ça va grincer.
Ça va être difficile parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est un phénomène de no return, en fin de compte. Et les hommes, bon, beaucoup de couples vont alors exploser après la guerre,
oui,
de 14.
Oui.
Parce que les femmes n'acceptent plus ce qu'elles acceptaient avant.
Absolument. Absolument. Alors oui, donc on voit ce mélange des classes sociales. D'ailleurs, à un moment donné, il dit « Ah, ma chère épouse » dans une lettre avec Charles, « Si vous pouviez voir notre troupeau de piou-piou, il est bien hétéroclite, pêle-mêle, on y trouve des fiers à bras, des garçons de ferme ahuri, de genoux de la classe 1914, tout juste sortis d'une adolescence boutonneuse, des exemptés, des réformés, qui, comme moi, plus âgés, ont été rattrapés par l'ordre de mobilisation. Mmh. » Voilà, tout un mélange qui se forme et qui ouvre peut-être, qui leur montre quelque chose.
C'est notre monde qui, oui, aussi s'ouvre, c'est le monde du XXe siècle. Et c'est un monde marqué par la vitesse, par les passions, mais aussi par les drames, bon, oui, qui vont les impacter directement.
Bien sûr.
Ils sont dans cette boucle-là, dans cette boucle du temps, d'un temps qui est très différent du temps du XIXe qui pourrait terminer. Mmh. Mais ils ne s'en rendent pas compte.
Non, ils ne s'en rendent pas compte. Alors Charles revient. Il a été gazé, et ça c'est terrible parce que c'est une, oui, mort un peu lente, on est handicapé malgré tout, oui, et on le renvoie au front. Ça, j'ai ignoré qu'on pouvait renvoyer quelqu'un qui avait été gazé. C'était pas au gaz moutarde. au gaz moutarde, il serait mort.
On manquait de, je ne dis pas de bras, on manquait de chair à canon.
Oui.
Et donc, il faut être très grand blessé pour être vraiment rendu inapte. Mon grand-oncle a été blessé 7 fois dans les tranchées et 3 fois descendu dans l'aviation. Et il a terminé la guerre dans un fauteuil roulant. Mais il a fait toute la guerre.
Oui, oui.
Et je me suis inspiré de son exemple à lui.
Bien sûr. Voilà. Oui, la guerre de 14-18 a été une
hécatombe. Chose effroyable. Nous ne pouvons pas nous rendre compte aujourd'hui de ce que c'est. Et moi, en tant qu'historien, la grande question que je me suis toujours posée, c'est comment ont-ils fait pour tenir ?
Oui. En vivant dans la boue, avec les rails.
Il faut une bien force morale énorme pour tenir.
Ouais.
Et alors, je crois que la force morale, c'est surtout celle des camarades qui sont là. Le fait qu'il y a le groupe primaire qui tient et qui est solide, qui remplace un peu la famille. Mm. Mais c'est quand on va voir.
Il y a une solidarité.
Une solidarité. Et qui n'est pas une solidarité de classe, une solidarité d'hommes. Clément Solisé, ils ont des droits sur nous. C'est ça.
Et pourtant, cette
union qui fait leur force, bon, on s'en rend compte quand on va voir les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Et c'est assez éloquent quand on voit ça, ce qu'il y a. Et ça, je l'ai traduit, moi, dans mon roman. C'est un roman historique et un roman d'histoire, en fait, quand on apprend des choses.
Bien sûr, beaucoup.
Voilà.
Beaucoup. Et on apprend, évidemment, vous introduisez là-dedans un élément très important. Alors moi, j'ai un grand-père, je vous l'ai dit, hors antenne, qui est mort dans les tranchées, et un autre qui a vécu 4 ans dans les tranchées, et quand il est rentré, un mois après, à Toulouse, il est mort de la grippe espagnole. Et là, donc...
La grippe espagnole, en effet, va tuer. Bon, elle a tué beaucoup de contemporains à l'époque, et cette grippe espagnole, bon, elle va tuer, en effet, une partie de la famille qui va en pâtir. Bon, c'est ce qui s'est produit malheureusement pour beaucoup et qui a d'ailleurs tué ceux qui avaient échappé à la guerre. Des gens qui avaient survécu à la guerre, ils ont parfois été exterminés par la guerre de 14. Des gens comme Apollinaire, par exemple, entre autres.
Ah oui. Il y a Alain Fournier.
Oui, Alain Fournier, c'est la guerre de 14. Alain Fournier a été tué.
Ah oui, non, je pensais, moi, à la guerre de 14. Ah,
oui.
Mais Guillaume Apollinaire
est mort de la grippe espagnole.
Oui, c'est vrai, oui.
Mort de la grippe espagnole.
Voilà, et alors, donc, les beaux-parents d'Irène meurent de la grippe espagnole et en un rien de temps. Et la voilà, cette jeune femme, tournée vers son gramophone, vers le piano, oisive, s'ennuyant, regrettant Limoux. La voilà propulsée à la tête de ce domaine.
Oui, c'est elle qui doit assumer, puisque son mari est handicapé parce qu'il a été gazé, il est gravement blessé. Les beaux-parents ne sont plus là. C'est elle qui doit assumer donc la charge.
Et même avant le retour de Charles. Et là, elle se rend compte que financièrement, ça va être dur.
Oui.
Parce qu'il n'y a plus le traitement du beau-père qui avait une solde ou un traitement en tout cas. Et puis évidemment, Charles, il travaillait en tant qu'avocat dans son cabinet.
Il ne peut plus faire le discours.
Oui. Voilà. Et alors, on voit quand même naître cette émancipation dont on parlait tout à l'heure.
On la voit apparaître, qu'elle commence, elle s'assume, et puis c'est elle qui va maintenir la boutique, qui va faire la boutique hors de l'eau.
Tout à fait.
Parce qu'il faut bien.
Tout à fait.
Et faire élever ses enfants, bon, et faire en sorte que ses enfants trouvent leur place dans la société.
Oui. Voilà. Et là où il va y avoir des problèmes, c'est quand Charles va revenir. Parce que Charles a vécu la guerre, mais ça a été tellement terrible qu'il en revient changé.
Il n'est plus le même homme.
Je pense que beaucoup
sont revenus. Ce n'est plus le même homme. Il a changé. Il a trop vu l'horreur. Et il n'a plus le même rapport avec sa femme, le rapport amical, affectueux, d'amour avec sa femme. Il est beaucoup plus froid, beaucoup plus distant. Bon,
aigri même.
Aigri. Oui, aigri. Et puis il est vraiment blessé.
Oui, et alors justement, pour pas montrer qu'il est handicapé, il veut faire preuve d'autorité, il veut reprendre les choses en main.
Oui, tout à fait. Il essaye de retrouver sa place, mais ce qui n'est pas facile.
Non, ce n'est pas facile. D'ailleurs, elle lui dit bien, elle dit « Comment avons-nous fait sans vous ?»
Oui, c'est ça.
Ben oui, voilà. Et alors, surtout, il devient pinailleur sur le plan financier, je dirais, et en particulier pour les études, les écoles de ses enfants. Et ce qui est un peu choquant, dans l'histoire, c'est que apparemment dans cette famille, il y a une addiction aux voitures. Donc là, il ne va pas pinailler pour l'achat d'une très belle voiture, mais pour ses enfants, il ne veut plus payer des études trop élevées. Voilà. Et il décide, et il faut obtempérer. À un moment donné, ça me fait rire. Il traite sa femme de suffragette.
Oui, de suffragette, parce qu'elle ose revendiquer un peu de liberté.
Voilà. Alors, vous nous faites visiter aussi la région, en ce sens que, comme toute personne gazée, il a des problèmes évidemment respiratoires, que la région est quand même peut être humide. Et il va partir à Argelès-Gazost.
Oui, par Argelès-Gazost, il descend par la fameuse côte de Cap-Verne, qui est une célèbre, parce qu'à l'époque, les freins des voitures n'étaient pas ce qu'ils étaient, et c'était redouté de tous les automobilistes, cette longue descente. Et c'est d'ailleurs là que va se produire, malheureusement, une partie des
drames.
Voilà.
Alors, oui, et auparavant, donc, ils sont en villégiature dans cet endroit qui apparemment leur convient à tous les deux. Et pendant ce temps, il se passe des choses. Alors, on voit le professeur d'histoire, et c'est agréable d'avoir des repères comme ça. Bon, il y a Clémenceau qui intervient. Il y a également une référence historique. Alors ça, vous voyez, enfin, il y a beaucoup de choses que j'ignorais, et merci de me le rappeler, de nous le rappeler. Par exemple, vous dites... oui, vous parlez de... Oui, Clémenceau. Alors, attendez, je cherche Clémenceau. Pourquoi parlez-vous de Clémenceau? Voilà. C'est bien un des rares points sur lesquels vous êtes d'accord avec le titre, parce qu'il a dit « l'Allemagne paiera ». Clémenceau a dit « Dieu m'est pourtant témoin que je ne partage pas les idées du Vendéen. » Vendéen. Reconnaissez lui aussi le mérite d'avoir su galvaniser la France dans l'épreuve. Je n'oublie pas surtout qu'il a envoyé en première ligne les régiments méridionaux se faire massacrer pour se venger de la révolte des vignerons de 1907. C'est vrai, ça ?
Alors, on a crédité Clémenceau d'avoir privilégié dans le choix des unités qui montaient au front les régiments du Midi pour se venger. En effet, cette révolte des vignerons en 1907 où les soldats des régiments du Midi avaient mis la crosse en l'air donc pour se venger d'eux, il aurait, c'est ce qu'on l'a crédité de ça. Bon.
Oui, c'est.
Après, bon, Clémenceau, il faut voir aussi que Clémenceau était un homme du 19e siècle, quand même, largement. Oui. Donc, il était plus radical et pas socialiste, je dirais. Donc, il y a cette balance entre les deux. Le Midi étant plus rouge, en fin de compte, que lui.
Oui.
Et lui étant qualifié de Vendéen parce qu'il est en anticlérical.
Ben oui.
Bien sûr. Il appartient à un monde qui, déjà, en 1914-15, est en train de disparaître petit à petit, Clémenceau. Mmh.
Oui, c'est ça. C'est
même s'il est
en moins de 50 ans, il y a eu un changement.
C'est énorme, le changement était énorme.
Ouais. Vous évoquez à un moment donné Henri Roussel, cet Anglais qui s'était pris d'amour pour les Pyrénées.
Oui.
Et qui a acheté, il me semble qu'il a acheté une grotte.
Oui, tout à fait, oui. Et qui a laissé son nom, d'ailleurs, à pas mal de sommets, etc., d'ascensions, où il est cité, et qu'il a des grands pyrénéistes que nous avons eus dans les Pyrénées.
Voilà, oui. Vous savez que la rue Jean Arlot est un pyrénéiste.
Un pyrénéiste également.
Voilà. Oui. Alors, bon, on assiste encore à un mariage arrangé. Je pense que ça va être le dernier. Pauline, la fille aînée de Charles et d'Irène, va épouser Maxence, un jeune homme bien sous tout rapport. Pendant ce temps, Francesco, le régisseur, va épouser Dolores. Et là, il y a plusieurs rappels historiques aussi, parce que Maxence va devoir partir. Et là, vous nous parlez de la guerre du Rif, et c'est vrai que...
Alors la guerre du Rif, c'est une guerre qui s'est produite dans le Maroc, dans laquelle la France a été impliquée contre son gré. À l'origine, c'était les Espagnols qui étaient impliqués dedans, et la France est venue au secours de l'Espagne. Et les opérations ont entraîné, et finalement, le gouvernement français a dit à Pétain, bon, écoutez, vous qui avez gagné Verdun, allez remettre l'ordre là-dedans. Et Pétain est parti à la tête d'un corps expéditionnaire français remettre de l'ordre dans ce Maroc. Et ça a été sanglant. Ça a été épouvantable, c'est des massacres en tout. Et avec une poignée de fer, il a remis en effet de l'ordre et la guerre de Rif s'est terminée. Mais mon héros, moi, mon Maxence, il va malheureusement se faire tuer à la guerre du Rif.
Il était parti avec 350 000 hommes quand même.
350 000 hommes, c'est un gros corps expéditionnaire.
Ah oui,
une guerre oubliée complètement. Complètement
oui, absolument.
Oubliée, qui est une des premières guerres, en fin de compte, d'indépendance dans le processus
de
décolonisation. Elle apparaît qu'aujourd'hui, qu'on analyse comme une guerre d'indépendance. Tentative d'indépendance, bon, dans la lignée des combats menés par Abdelkader en Algérie, c'est un peu dans la même ligne. Mais c'est une guerre aujourd'hui oubliée des historiens, on la mentionne à peine, il y a peu d'écrits dessus.
Donc on voit apparaître le maréchal Pétain, qui n'était pas maréchal sans doute à l'époque.
Il était maréchal.
Il était déjà maréchal. Oui. Et on voit apparaître, alors vous ajoutez, artillerie, aviation, prêter main forte aux troupes espagnoles commandées sur place par un certain Franco.
Oui, en effet, Franco était le commandant des troupes, d'où l'amitié qu'il y a eu entre Pétain et Franco. Les bonnes liaisons qu'il y avait entre les uns et les autres remontent à cette époque, la guerre du Rif.
Voilà, donc voilà encore une jeune veuve. Maxence est tué dans le Rif, dans cette guerre du Rif. On est en 1926 et c'est l'année noire, puisque Charles et Irène donc, vont mourir dans un accident de voiture, justement dans cette côte dont vous aviez
parlé. La côte de Cap-Verne, les freins de la voiture lâchent et ils vont s'écraser contre un arbre.
Oui.
Et donc Pauline se retrouve veuve, sans ses parents, sans son mari. Son mari était un officier de tradition, comme on dit, et donc elle va essayer de gagner sa vie, elle va devenir infirmière.
Alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est que là vraiment, il y a une grande, il se passe quelque chose de décisif, c'est que il reste trois enfants.
Oui.
Il y a elle, l'aînée, Pauline. Il y a son frère qui s'appelle Arnaud, et puis Philippe. Et là, on se rend compte que ils sont acculés. Ils doivent prendre des décisions seuls, sans être chapeautés par les parents.
Tout à fait. Et c'est là, au pied du mur, qu'on voit le maçon, comme on dit familièrement.
Oui.
Et Pauline va faire preuve d'un grand caractère. C'est une femme de caractère.
Force, oui, absolument.
Oui. Et elle s'arme par sa foi religieuse également. Elle a une grande foi religieuse et qui lui sert d'armure, en fin de compte, pour affronter les adversités. Et Arnaud, lui, qui a moins de foi que sa sœur, qui est plus bon. Mais lui, par contre, il a beaucoup de volonté, et ils vont tous, les deux aînés, faire en sorte que, pour payer les études du petit, qui reste à élever.
Oui, oui. Et il vit en même temps, il réalise ce pourquoi ils pensent être faits, ce pourquoi ils sont faits d'ailleurs.
Oui.
Enfin, ils choisissent par eux-mêmes.
Tout à fait, tout à fait.
Et là, donc, je vous lis un extrait. En accord avec sa sœur, Arnaud avait convoqué le soir même, dans le bureau jadis occupé par Jules de Saint-Geniès, son grand-père, puis par Charles, son père, le fidèle Pervenche Delsol et la jeune Juliette Lassalle, qui l'assistait dans l'entretien de la maison. Il avait aussi prié Francisco Ibanez d'être présent. L'Espagnol, à l'aube de ses 30 ans, ne lui apparaissait-il pas, plus que jamais, comme le seul capable de faire fonction de régisseur ? Qui pourrait-il trouver de mieux pour diriger ce domaine ? Arnaud savait que Francisco s'était enraciné ici. Ne nourrissait-il pas pour Terrefort une passion presque aussi charnelle que s'il en avait été le propriétaire ?
Tout à fait. Il s'est incarné littéralement dans la terre et il a fini par se l'approprier mentalement. Et donc,
il y a cet enracinement qu'on retrouve, on retrouvait chez Arnaud, qui aimait la terre, qui aimait ce
lieu. Oui, il aime la terre. Il aime la terre. Alors que son frère cadet, le dernier, n'aime pas du tout. Il n'est pas du tout attiré par ça.
Oui, voilà. Alors, bon, la Seconde Guerre mondiale, Arnaud était blessé, j'ai oublié de dire ça, évidemment, hein, il y en a qui ont...
Il a fait de l'aviation, lui, voilà. Il est devenu compagnon, il est rentré aérospatial.
Comme un de vos parents.
Voilà, il est devenu compagnon de Mermoz, il est chargé de faire du convoyage d'avion. Alors, il ne fait pas les grandes liaisons, il fait le convoyage d'avion d'un endroit à un autre, et dans la Seconde Guerre mondiale, il est blessé et est devenu inapte au vol. Donc, il se replie en 1940 sur ses terres ariégeoises, sur son domaine des terres forts, pour attendre que les combats s'arrêtent.
Mais comme c'est un homme d'honneur, évidemment, il va soutenir la résistance.
Il soutient la résistance, et Francisco aussi, d'ailleurs, ils travaillent ensemble, plus ou moins, et la guerre va leur donner l'occasion d'affronter, disons, d'autres grands combats, notamment, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dedans, à écrire, c'est la liaison qu'il y a entre Arnaud de Saint-Geniès et le capitaine de Rose.
Oui, qui est allemand.
Qui est un allemand. Qui est
un aviateur.
D'origine française, d'origine protestante, qui est arrivé là parce qu'il était blessé, on l'a amené. Et donc la liaison entre les deux décrit, en fin de compte, il anticipe l'Europe.
Bien sûr, exactement. Et puis, tous les Allemands n'étaient pas des nazis.
Tous les Allemands n'étaient pas des nazis, loin de là.
Bon, ouais. Voilà. Alors, on ne va pas parler, parce qu'on pourrait parler de cette épouse allemande, on n'en dira pas plus. On pourrait parler de la Légion étrangère, de Sidi Bé Abbès, du colonel Jean-Pierre. On pourrait en parler. Mais ça, c'est les auditeurs, qui vont découvrir ça dans votre livre.
Il y a beaucoup à découvrir.
Ben voilà, exactement. Alors, un grand merci. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un roman de Georges Patrick Glaise, intitulé « Même les pierres ont une histoire ». Il est édité chez Kalman Lévy. Merci.
Merci beaucoup.